Vous êtes sur RTL.
Bonsoir François.
Bonsoir. Bonsoir Sabine.
Eh bien, je vous écoute.
Merci de m'accorder votre écoute bienveillante.
Avec plaisir.
Et merci déjà à Colin et à Sarah pour leur remarquable travail préliminaire.
Ah oui, vous en parlez un petit moment, je crois.
Voilà. Et d'autre part, quelle perspicacité de votre part, c'est inouï, parce que la séparation, mon Dieu, combien elle me concerne, combien elle m'a affligé.
Ah, bah écoutez, oui. Ça fait une transition toute naturelle, alors.
Exactement. Alors, je commence par les préliminaires, tout de même. Hein. Et j'ai une carte d'identité, si je puis dire, de mon cœur, qui est, j'ai deux amours, que sont mes deux merveilleuses filles, auxquelles j'associe mes gendres, et mes quatre petits-enfants.
Oui, quel âge ont vos filles?
Elles ont 36 et 34 ans.
Oui.
Elles font leur vie.
Oui.
Voilà. Et elles font leur vie. Et elles sont adorables. Moi, j'ai une danseuse, mais j'y reviendrai. Le point est très important symboliquement pour moi.
Oui.
C'est une maison que j'ai entrepris de restaurer avant même de rencontrer celle qui est devenue la mère de mes filles.
Ah, donc c'était votre premier amour, votre danseuse maison.
En quelque sorte, oui. Et je me précise que je suis, c'est pas pour rien, j'ai été architecte spécialisé dans le patrimoine ancien, en France et en Europe même. Hein, voilà, donc cette maison, c'est une importance symbolique énorme pour moi.
Oui.
Et en troisième, j'ai un talon d'Achille, qui est ma santé.
Oui.
Et quand la santé va, quand la santé tout va, quand la santé ne va plus, rien ne va plus.
Oui, bien sûr.
Et Sabine, je suis aujourd'hui grabataire.
Oui.
C'est-à-dire, le mot m'a fait peur quand j'ai dit vérifier. Je vois, c'est quand on n'a plus la capacité de se déplacer.
Oui.
Il y a même des grabataires verticaux et les grabataires horizontaux qui doivent garder le lit. Mais moi, je me lève, je passe ma journée dans un fauteuil où je me trouve là pour vous parler.
Oui.
Par contre, je ne peux même plus aller dormir dans mon lit, très peu, parce que faisant de l'apnée du sommeil, je m'assoupis à peine une heure avec multiples somnifères néfastes.
Oui. Et qu'est-ce qui vous est arrivé, François, pour être en fauteuil aujourd'hui?
Alors, c'est...
Vous semblez avoir une voix jeune, vous?
Oui, mais c'est très aimable, si Nicolas hier. Je vais sur mes 72 ans.
Oui.
Je connais des nonagénaires qui sont en nettement meilleure santé que moi. Quand je dis que je suis grabataire, je veux dire que c'est comme quand un non-voyant dit qu'il est non-voyant, pas la peine de lui demander qu'il précise toutes les difficultés que ça lui crée au quotidien.
Bien sûr.
Moi, c'est pareil. Mais pour aller à ma cuisine me faire un café, je mets à trois pas, je suis essoufflé. Au bout de deux pas, je suis essoufflé. Et j'ai dans ma cuisine, j'ai une chaise pour m'asseoir, pour faire un café, ou pour être de mon micro-ondes.
Vous pouvez tantôt marcher et tantôt vous êtes dans un fauteuil, c'est ça?
Oui, mais quand je marche, je dois m'appuyer sur les murs.
Oui.
Je ne peux donc rien porter de mes mains. Et je suis surtout essoufflé. Alors, quand même, je vais très brièvement détailler l'état de mon corps. C'est que, oui, je suis passé, je vous ai déjà dit, de 100, pour 1m80, de même pas 65 kilos, à aujourd'hui plus de 125 kilos.
En combien de temps, vous dites?
Oh, ça s'est fait progressivement.
Oui.
Mais, en 1995, j'étais très svelte et en pleine forme. Alors, je peux en venir dès maintenant, selon moi, aux causes.
Oui.
Selon moi.
Oui, je vous écoute.
Vous le voulez? Les causes?
Alors, je suppose qu'il y a deux familles de causes. Donc, il y a les causes médicales qui ont fait que ce qui vous est arrivé, et peut-être des causes plus existentielles ou occasionnelles.
Oui, voilà. Les causes médicales, c'est ultérieur, c'est après, c'est l'enchaînement. Je prends du poids, je déprime, mon médecin me donne des anxiolytiques et autres calmants, je prends du poids, etc., etc., etc.
Ah, vous êtes dans le cercle infernal du poids.
Voilà, c'est infernal, pas vicieux, c'est qu'infernal.
Oui, oui.
Je suis devenu alcoolique en 95. Et j'en viens tout de suite, puisque c'est le thème que je...
Alors, attendez, François, pour bien vous suivre, parce que... Donc, tout commence en 1995. En 1995, vous avez votre poids normal.
Oui.
C'est ça, hein, vous avez...
Je suis même en pleine forme en 93.
Oui.
Et alors, j'en viens aux événements, parce que je sais que c'est... Donc, on a remarqué un petit analyste. En mars 1993, mon frère aîné se donne la mort par pendaison dans son appartement parisien.
Oui.
C'est moi qui ai eu la lourde charge qu'elle a annoncée à mes parents, qui ont bien sûr été complètement effondrés.
Oui.
Alors que j'avais quand même une femme et deux filles, c'est moi qui ai porté mes parents et partiellement ma famille à bout de bras.
Vous aviez une quarantaine d'années à cette époque-là.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Et là, vous, comment était votre vie à ce moment-là? Vous étiez...
Ah, très, très, très bien. Le jour où j'ai appris la nouvelle, j'étais en train de restaurer et travailler chez moi. J'étais en pleine forme. J'avais des activités associatives dans un cercle humaniste. J'ai été conseiller municipal. Oui, j'avais un métier.
Oui.
Oui.
Et vous étiez en bonne santé, donc tout allait bien. Donc vous n'aviez pas encore vos filles, si je calcule bien.
Oui, 93.
D'accord, 93, elles avaient
10 ans.
Elles avaient 10 ans, oui.
Près de 10 ans, près de
d'accord,
10 ans.
D'accord,
d'accord. Et puis, sur cet événement, un an plus tard, ma femme, la mère de mes filles, demande le divorce. Alors, la séparation du couple, c'était, ça, c'est, je pouvais en faire le deuil, ce qui a été, que je n'ai pas pu soutenir, c'est que j'ai parlé de cette maison. J'ai acheté une maison en ruine en 1975, bien avant d'avoir rencontré celle qui allait devenir mon épouse.
Oui.
Qui dit maison en ruine pour la restaurer et pour y fonder une famille.
Oui, c'était votre projet. Oui.
Voilà, pour être... j'avais des rêves dans cette maison de couple, avec des, recevant des amis, avec des enfants heureux. Enfin, c'était mon paradis, mon Aïmat, mon Jérusalem.
Mmh.
Hein. Et quand ma femme est partie, elle a emporté avec elle des filles. Que j'ai laissé partir par la juge aux affaires familiales à apprécier, parce que j'ai pas voulu mettre les enfants en balance. Hein.
C'est ça.
Et ça, j'ai très bien fait de faire ça.
Et la mère de vos enfants est restée dans la même ville?
Non, après, c'est d'ailleurs... elle a dû partir, mais pas très loin. Elle est partie à Paris. J'habite pas loin de Paris.
Donc là, vous avez eu donc deux chocs successifs, la disparition de votre frère de façon violente, et très peu après, enfin un peu plus d'un an après, votre femme qui demande le divorce.
Oui, et surtout la séparation
d'avec vos filles,
de ma famille qui quitte la maison que j'avais créée pour y mettre ma famille.
C'est ça.
Parce que je suis
clair.
Mais ça, c'est le sens pour moi.
Oui.
C'est tout ce qu'il y avait de symbolique. Qui était des tueries. C'était une maison vide dans tous les sens.
C'est ça, oui. Ben, vide de sens.
Et là, j'étais mort. Est-ce que vous comprenez ce que
bien
je veux
sûr,
dire?
Bien sûr, bien sûr.
Et enfin, dernière couche, Sabine, pour terminer, un an après, ma mère a été hospitalisée pour cause d'Alzheimer. Voilà.
Mmh.
Alors, je me suis effondré. J'ai pu garder mon métier. Mais enfin, ma vie a basculé ce jour-là.
Oui. Et c'est là qu'a commencé le cercle infernal des soucis de santé?
Mais je me suis mis à boire.
D'accord. Ça a commencé par l'alcool, en fait.
Oui. J'ai fait un peu de modelage. Je vous essaie de vous parler. J'ai fait, mais c'est il y a très longtemps, une sculpture.
Oui.
Et je suis bipolaire. Et je remercie le médecin généraliste, il y a très longtemps, qui a émis cette hypothèse.
Oui.
Que je sois bipolaire. Il avait tout à fait raison. Depuis, il prend
du lithium, des thymorégulateurs, c'est ça?
Ou des thymorégulateurs, oui, ça va très bien. Mais étant bipolaire, je suis excessif, j'ai tendance à être excessif. J'ai reporté au lendemain. Il y a être sans limite, voilà.
Oui.
Mais oui, donc j'ai fait une petite culture à l'époque. C'est sur la succion. Hein. Une poitrine de femme, si bien traitée bien plastiquement, un sein se termine en forme de bouteille de vin.
Oui.
Et l'autre sein se termine en forme de fume-cigarette.
Donc ça, c'était l'œuvre.
Oui.
Oui.
Une petite chose, hein.
Et ça avait si vous le citez, François, c'est que je pense que ça a une importance pour vous. Ça avait une signification particulière. Donc c'était deux éléments qui vous détruisaient. C'est ça que vous exprimiez?
Non. Pour moi, c'est ça voulait dire que lorsqu'on fume et lorsqu'on boit, on régresse jusqu'au moment où lorsqu'on était enfant ou c'était sa mère.
Ah, oui, alors ça, c'est la question de la pulsion orale, c'est à ça que vous faites référence.
Peut-être, oui.
Voilà.
Oui.
Alors peut-être, on va en dire un mot pour ceux qui nous écoutent, donc c'est peut-être à ça que vous faites référence, donc c'est la théorie de Freud sur les différents stades pulsionnels, et effectivement, le tout jeune enfant, c'est pour ça que vous parlez de régression, commence par éprouver les pulsions orales, donc la succion,
oui,
effectivement, la titine,
orale,
le biberon, etc. Et la caractéristique de l'être humain, c'est que à une fonction vitale qui est manger, s'associe un plaisir, qui est le plaisir de la succion. Et parfois, ce plaisir-là, enfin, toutes les pulsions orales, effectivement, pulsions orales, boire, fumer, sur un mode plus symbolique, parler énormément.
Oui.
Voilà,
oui.
Ça, c'est des formes d'expression d'un plaisir enfantin. C'est pour ça que vous parlez de régression.
Oui.
Oui.
Mais aussi, à ce stade, à vous de mener, c'est vous qui avez les rênes. Mais à ce stade aussi, une chose qui me semble intéressante de dire, c'est que, et je vous écoute tous les soirs, c'est très. Merci à vous d'exister. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire?
Vous vouliez.
Oui, voilà, j'essaie de réagir. Et j'ai entrepris. J'ai quand même la chance, et je n'ai plus de vie sociale, ne pouvant plus me déplacer. J'ai juste des cours de modelage avec des copines, mais les copines sont mère et grand-mère. Hein.
Oui.
Elles sont tout à fait adorables, très gentilles avec moi. Et ce sont elles, alors qu'une d'entre elles m'a dit, il y a quelques mois, François, pourquoi tu n'écrirais pas un livre? Parce que je parle.
Ça aussi, c'est de la pulsion orale, vous le savez. Hein.
Eh oui, voilà, c'est qu'on peut appeler aussi des paroles.
Oui.
J'y ai pensé, ça. Vous me coupez le bec. Je vous adore.
Et face à l'écriture, oui, évidemment, c'est une sublimation par rapport à la pulsion orale. C'est pas une régression, c'est le contraire.
Vous pouvez m'en parler, parce que, attendez, je place quand même mon propos, mais une autre m'a dit, et François, ça serait un merveilleux cadeau que tu ferais à tes enfants et petits-enfants. Et je dois dire que j'avais déjà un peu écrit à diverses occasions. Je suis très laborieux, mais on m'a dit que j'avais une plume. C'est-à-dire que je travaille énormément pour produire une page.
Oui.
J'en ai qu'à dire que j'en arrivais à une. Bon, hein. Et puis, j'ai aussi pratiqué... J'ai aimé intervenir en public et j'ai même parlé j'ai découvert le pouvoir érotique du verbe. Quand en public, en tant qu'orateur, vous recevez tous les applaudissements de la salle,
oui.
Les femmes viennent près de vous, vos amis, pour montrer qu'elles vous connaissent bien. Vous voyez, des choses comme ça. Et toute chose qui était gratifiante. Hein.
Oui, tout
Mais
à fait.
Mais vous me sortez, me pointez Sabine, une chose que je n'avais pas conçue, c'est que le verbe, qui est superposé par le verbe, c'est aussi une chose qui s'ingère.
Oui, c'est aussi un plaisir oral, effectivement, c'est de la pulsion orale. Et dès lors que vous écrivez, vous sortez du stade oral pour arriver à une forme de sublimation, puisque c'est une œuvre plus élaborée.
Oh, vous me gonflez.
Ça vous... vous
ah avez... oui.
Oui. Parfois, effectivement, on ne pense pas quand on est habitué à son mode de fonctionnement. Mais en fait, François, donc vous pensez à ça, donc c'est ce qui est évidemment une idée extrêmement porteuse. On trouve des joies immenses dans l'écriture. Et du côté de votre santé, comment vous voyez les choses? Est-ce que
Je termine avec l'écriture, mais ce sera bref.
Oui.
C'est que du coup, j'ai trouvé une biographe professionnelle.
Oui.
Et j'ai entrepris avec elle, mais là on est au tout début, d'écrire un livre.
Oui.
Et je passe mes nuits, comme j'ai des horaires très décalés, je me couche souvent avec le lever du soleil. Hein? Mais toute la nuit, j'ai un enregistreur vocal.
Oui.
Et j'enregistre, j'ai 1000 choses à raconter sur mon enfance, sur les gens que j'ai rencontrés, etc., etc., etc. Voilà pour la parole.
Oui. Hein? François, comme juste une question. Pourquoi vous n'essayez pas d'écrire vous-même au lieu de rester dans la parole, enregistrée? Pourquoi vous ne tentez pas de... Même si après un briographe reprend, mais pourquoi vous ne tentez pas le passage à l'écriture?
Ah, mais attendez, le briographe reprend. Figurez-vous, j'étais gaucher. Je suis gaucher.
Oui.
J'étais un merveilleux dessinateur, ça c'est une histoire personnelle. Hein. Ma mère était prof de dessin, pour faire simple, et mon père était son élève. Il lui a fait 5 enfants, je suis le 3e. Et j'étais, moi, excellent dessinateur, lauréat du concours général en dessin. Dans mes études, j'étais maquettiste renommé, dessinateur renommé, et j'ai fait une grosse dépression. Quand j'ai fait ma dépression, j'ai resté accoudé sur un canapé, sur un accoudoir en bois, et je me suis détruit des canaux qui mènent de gauche, qui alimentent la main. Donc je ne peux plus me servir de la main gauche.
Oui.
Je ne sais que des pattes de mouche. Rendez-vous compte, ça c'est... Vous connaissez peut-être l'histoire de Blaise Sandrart, qui veut dire « braise et cendre ». ». C'est l'histoire d'une renaissance comme ça.
Mm.
Et voilà, mais écoutez, donc je n'ai plus de nom, mais je continue à vivre avec ce qui reste.
Oui. Et comment vous voyez les choses pour votre santé? Parce que quel que soit l'état où on se trouve, vous n'êtes pas vieux, donc il y a toujours des marges d'amélioration possibles. Comment vous voyez la suite?
Je ne la vois pas.
Parce que soit la vivacité de votre esprit, elle a besoin du support de votre corps.
Ah ben, mon corps n'existe plus. Je n'ai plus de corps. Mon corps n'est source que de souffrance.
Oui.
Mon corps n'est source que de souffrance. J'ai un pacemaker depuis 9 ans. J'ai failli laisser déjà 9 ans. Parce que non, je n'ai pas respecté mon corps. Je l'ai brûlé par les 3 bouts, si je peux dire. Et j'ai un pacemaker depuis 9 ans. J'ai failli rester à cette époque-là parce que, et quand je dis, je ne sais pas que je vis célibataire, c'est pas que je vis seul, c'est que je ne vois personne, que personne ne passe me voir, à part, bon, 2-3 personnes dans la semaine.
Mmh.
Mais j'avais fait une chute. J'ai fait une syncope pour mon escalier. Je suis tombé dans la mienne. J'ai dégringolé mon escalier en béton la tête la première. Heureusement, je n'avais pas fermé la porte à clé. J'habite dans un village, c'est une maison de ville, et c'est un livreur d'aliments qui est venu, qui m'a trouvé la tête en sang, qui est sorti en criant, paraît-il. Et ils ont appelé le pharmacien, c'est le SDIS qui a passé une heure à me ranimer dans la rue. Oui,
Vous avez vécu des choses très violentes du côté du corps. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que... Parce que, est-ce que je me trompe, François, en ayant l'impression que vous l'abandonnez, votre corps, au sens où vous n'espérez pas un mieux? Est-ce que c'est vrai?
Oui, ça vous avez bien vu.
Oui. Et
vous voyez bien.
Et qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire? Parce que le corps, c'est une machine extraordinaire. Même si on l'a maltraité 30 ans, il suffit de petites améliorations, de réversion dans le sens vital pour que des améliorations se passent. Quelles sont les toutes petites choses que vous pourriez faire pour votre corps, pour votre santé aller un peu mieux?
Mais déjà, si c'est prendre du poids.
Oui.
Il y a un liage entre les médicaments... Et l'alcool, mais là j'ai dû cesser l'alcool parce que mon corps ne peut plus.
Là, vous avez réussi à cesser complètement l'alcool?
Oui, mais là, la dernière fois, je ne peux plus, mais ça remonte à pas longtemps, ça remonte à 2 semaines, il y a peine. Hein.
Oui.
Et j'ai fait un ulcère à l'estomac, je n'arrivais plus à respirer, j'étais malade comme un chien. Et puis pour vous montrer l'engrenage avec les médicaments, ayant un pacemaker, je suis sur anticoagulant.
Oui.
J'ai aussi un début d'arthrose, au point qu'un médecin généraliste pense qu'on devrait me mettre une prothèse de hanche.
François, est-ce que vous souffrez d'un diabète métabolique? Parce que tout ce que vous dites là, ça fait penser à des conséquences en cascade du diabète?
Oui, bien je vois une diabétologue... Seulement pour la seconde fois, alors c'est plus de 6 ans que j'ai le diabète, j'en vois une vendredi.
Oui, parce que est-ce que vous pensez que vous, elle va certainement vous guider, mais est-ce que vous pensez que vous, par exemple, en termes de nutrition, vous avez une marge de manœuvre pour traiter mieux votre corps?
Ah, je me demande très mal.
Ben oui.
Je l'ai dit à Sarah, c'est que j'étais marié 2 fois, mais j'ai passé le temps à vivre seul, donc sans femme qui fait la cuisine, je le dis comme ça, pas misogyne là-dedans. Mais du coup, je m'alimente très mal.
Parce que ça, c'est très important dans votre état.
Bien sûr.
Parce que, au fond, si vous souffrez de diabète métabolique, ça devient presque un mal source qui en entraîne plein d'autres, qui entraîne peut-être des problèmes cardiaques, des problèmes articulaires, Et peut-être
donc,
des problèmes nerveux,
Oui, je ne sais pas.
Et moi, il me semble que du côté de la nourriture, là, ça, on en sait de plus en plus. Hein. On sait à quel point notre terrain, c'est la base de notre corps, dépend directement, étroitement de la nutrition.
On est ce qu'on mange.
Mais oui, on est ce qu'on mange. En fait, ça dépend de 3 choses. Ça dépend de l'air que l'on respire. Donc, s'il y a trop de pollution, c'est un vrai poison. Ça dépend de la nutrition, parce que c'est ce qui fait la composition de notre sang. Et le sang, c'est le milieu dans lequel baignent nos cellules. Donc, c'est fondamental. Et la troisième variante, c'est les émotions. Puisque en fonction des émotions, la biochimie de notre sang change. Et là aussi, c'est le milieu dans lequel baignent les cellules. Donc au fond, selon la façon dont vous vous nourrissez, François, vous déterminez la formule de votre sang. Et toutes les cellules de votre corps baignent dans ce milieu-là, qui est le sang. Donc tous vos organes dépendent de la façon dont vous vous nourrissez. Pas seulement l'estomac et tout sucre, vous voyez. Ça, imaginez, enfin, on n'y pense pas. Ça nous paraît évident quand on voit des cellules cultivées en laboratoire. Elles sont cultivées dans un milieu, dans un liquide. Ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un qui cultive des cellules en laboratoire de les cultiver dans un liquide pauvre ou toxique. Et là, au fond, c'est pareil avec le sang. Quand on se nourrit mal, le liquide devient toxique pour toutes nos cellules, celles du cerveau, des organes, de tout. Alors, c'est jamais facile de modifier des habitudes, surtout que des habitudes peuvent devenir des addictions. Donc, ça, c'est aussi les tours que nous joue la chimie de notre corps. Mais ça vaut tellement la peine de faire cet effort-là cet effort. On a l'air de dire que c'est un manque de volonté, c'est pas ça. Mais c'est de prendre cette route-là pour pouvoir vraiment honorer la vie dans notre corps.
Oui, et pour rien améliorer, si je peux dire, d'un côté j'ai mon pacemaker, et de l'autre côté j'ai mes poumons remplis de coudron, puisque je fume des cigarios.
Oui.
J'essaye de me mettre à la cigarette électronique, mais voilà. Vous imaginez ?
François, de quoi vous avez besoin ? De quelles ressources morales vous avez besoin ?
Un levier, je pense.
Et oui, pour bien traiter votre corps. Oui.
Qui me donne mes petits-enfants, me donnent de l'amour et mes enfants. Mais ce n'est pas vous qui vous contredirez. Je me rappelle que Caroline disait aussi ce n'est pas bien pour vis-à-vis de mes enfants et mes petits-enfants que ma vie se réduise à mon lien avec eux. J'ai même un gendre qui, il y a encore quelques années, osait me demander des questions pour savoir si j'ai rencontré quelqu'un. Bon, maintenant, il s'est bien tué, hein. Mais là, je ne peux pas vivre pendu à essayer de passer un coup de fil à mes filles qui sont bien accaparées par des enfants, une maison, un mari, un travail prenant.
Vous savez, François, il y a d'autres façons d'être porté par un lien que de téléphoner tout le temps. Au fond, si à l'intérieur de vous, vous désirez vivre pour voir grandir vos petits-enfants, pour voir vos filles évoluer dans la vie, il n'y a pas forcément besoin de les avoir toujours au téléphone. Vous parliez de sens, du sens qu'avait votre maison et de l'idéal de famille qu'elle portait. Là, c'est pareil, c'est même sans dépendre d'eux de façon pratique, vous pouvez porter ce sens en vous, dire que vous voulez voir grandir vos petits-enfants et que pour ça, c'est incontournable que vous preniez soin de votre santé. Votre corps, déjà, il a résisté 30 ans à toutes sortes de choses. Enfin, vous m'avez parlé, vous l'avez évoqué avec délicatesse, mais des accidents de corps très violents. Voilà, il a ses limites aussi, peut-être qu'il mérite que vous en preniez soin.
Mais Sabine, l'autre soir, vous avez une phrase qui a fait tilt. Si vous avez dit « prenez soin de vous ».
Oui.
Et quand on me disait ça avant, je pensais que ça voulait dire « soyez égoïste ». Alors que là, vous avez dit « soin », c'est « soit se soigner ».
Oui, c'est très simple, c'est honorer la vie en soi. Et quand on honore la vie en soi, on honore celle des autres. Vous voyez, il me semble que tout est corrélé.
Ça n'importe pas de remarques de ma part. C'est tellement limpide.
Oui. Et c'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, j'allais dire, peu importe où vous prenez vos ressources, que vous les preniez dans le lien avec vos petits-enfants, avec vos filles, dans l'amour que vous avez pour le modelage, l'important c'est qu'il y en ait des ressources et que ce soit un élan vital qui contrebalance les mauvaises habitudes alimentaires, qui contrebalance le sentiment de solitude qui peut vous donner l'impression certains jours que ça ne vaut pas la peine. Peu importe où vous le prenez, l'élan vital, l'important c'est que vous le trouviez.
Mais la rédaction de ce livre, c'est un projet remarquable, parce que c'est un projet qu'on avance, c'est un gros chantier, ça m'occupe, ça prend une grande partie de mes nuits. Mais par contre, ça remue, il faut que je repense sur mes parents, mes grands-parents, mon enfance. Donc c'est aussi, il faut que je fasse attention, il faut mettre des limites, car je suis un homme sans limite, étant bipolaire.
Oui, vous êtes
dans la mesure.
Oui, je comprends ce que vous dites. Effectivement, la fonction de la limite est un peu plus fluctuante. Mais si vous êtes stabilisé avec des thymorégulateurs, est-ce que vous croyez vraiment que ça vient de là ?
Non, mais ce sont des amis. J'avais même vécu une époque avec une psychanalyste qui me disait, du jour, François, tu n'as pas de limite. Elle était adepte de Winnicott, je rappelle.
Oui.
Mais oui, les amis me disent ça. Je suis en tout, je suis en excès. Et maintenant, je suis parti sur ce livre. Ben, j'y passe 6 heures par nuit à dicter, à prendre des notes, à
Alors, peut-être si vous avez le sentiment que ce n'est pas la limite qui vous parle, c'est peut-être pouvoir aller du côté de la vie pour votre corps, en fonction de ce qui a du sens pour vous. On n'est pas obligé de parler de limite.
Oui, non, parce que je ne voudrais pas être négatif, au contraire, voilà. Il y a plein de choses positives de ce que ça, puis on s'accroche à un bilan vital. Et il y a un proverbe qui dit notre âge se mesure au nombre de personnes qu'on a rencontrées ou au nombre de rencontres qu'il nous reste à faire. Et à ce titre, je vis ma dernière heure de ma vie. Mais donc, il est temps que je me mette à l'ouvrage.
Oui, alors il y a...
Il m'arrive d'être gay.
Et je pense que si, c'est un cercle vertueux. Alors, je vous lis un message de Jacques. Alors, j'en profite pour remercier Jacques, parce que Jacques est un auditeur fidèle. Je m'en rends compte depuis que je suis dans Parlons-nous. Il nous envoie très souvent des messages, de longs messages vraiment affectueux. Donc, je lis Jacques. François, ces trois déflagrations ont brisé votre rêve de cocon familial idéal. On entend bien votre douleur au travers de votre récit très honnête et vos blessures vous rongent. Votre intellect brillant mérite que vous preniez soin de votre corps. Là, je suis tellement d'accord. Comme Blaise Cendrars qui avait perdu son bras à la guerre, l'après peut vous inspirer une œuvre brillante. Prenez enfin soin de vous et faites-vous aider. Votre famille pourra profiter encore longtemps de votre charmante compagnie.
Merci Jacques.
Voilà. Jacques sait écrire en plus. Je le vois chaque soir avec les messages qu'il prend soin d'élaborer. Voilà. Donc c'est... Allez, on va dire que c'est entre auteurs.
Ah, Jacques, c'est magnifique. Ça me touche beaucoup.
Oui. Alors François, peut-être, on peut que vous souhaiter... je crois que beaucoup de choses commencent par votre corps, parce que pour le reste, il y a des choses qui ont beaucoup de sens pour vous.
Entendu.
Donc vraiment, je souhaite que vous trouviez auprès de la diabétologue un appui, des éclairages, peut-être d'autres, et puis que vous puissiez vraiment prendre soin de vous, au plein sens du terme.
Entendu, Sabine.
François, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles.
Et bonne soirée.
Bonne soirée à vous. Et je
redonne.
Au revoir. Au revoir, François. Et pour tous ceux qui souhaitent témoigner ce soir, donc il y a beaucoup de sujets dans le témoignage de François. Il y a la question du deuil, il y a la question de la santé, la question de la sublimation, la question de la famille. Si vous souhaitez témoigner, rebondir sur le témoignage de François ou nous faire part de votre propre expérience, quelle qu'elle soit, 09 69 39 10 11. N'hésitez pas, c'est l'été, donc c'est un moment propice pour que vos appels soient passés rapidement. Donc si vous y pensez depuis un petit moment, n'hésitez pas.